Je vous invite juste à une première lecture pour partager ce matin dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 17, Luc 17 versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit: « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Les dix n'ont-ils pas été tous guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jusque-là, juste une petite lecture. Et je vous invite à la prière. Père éternel, encore une fois, nous voulons faire silence et te laisser parler. Te laisser parler parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui veux nous enseigner. C'est toi qui veux passer ton message. Seigneur, que je sois simplement un haut-parleur. Que je sois simplement aussi celui qui reçoit ton message. Pour moi-même et pour mes frères et sœurs. Mais encore une fois, que ce soit toi, toi qui aies toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu le dimanche de Pentecôte, je suppose que vous étiez au culte, mais moi j'ai enregistré. Il est passé à la télévision, à un culte en Eurovision, en direct de Pinorello, en Italie. Et c'était une célébration œcuménique qui était entre les églises protestantes vaudoises et les églises catholiques. Et voilà ce qu'un des intervenants, qui était responsable, a partagé suite au discours de Pierre, qui se trouve dans les Actes chapitre 2. À l'époque de la descente du Saint-Esprit. Je cite. Comment se porte le christianisme en Europe? Je pense que si l'on devait répondre par une boutade, il faudrait dire que les Européens ont une certaine odeur de moisi, quelque peu de vieux, un peu inutile, en un mot, quelque peu usé. Mais qu'entend-on par usé? On pourrait le dire avec une image. Si on prend une veste qu'on s'est trop servie, on dit qu'elle est usée. Cela ne veut pas dire que ce n'est plus une veste. Bien sûr que c'est une veste, mais elle est un peu déchirée. Elle ne va plus bien. On ne veut plus la porter. Le récit de la Pentecôte nous dit autre chose. Ces gens semblaient saouls, ivres. Ils devaient être tellement radieux et rayonnants qu'ils étaient confondus avec des ivrognes. Mais ils étaient pleins d'une force et d'une passion que les gens disaient « ils sont ivres ». Ils avaient été remplis de quelque chose de grand, d'absolument nouveau. Fin de citation. Après ça, je me suis posé la question « comment se porte le christianisme ?» Et puis j'ai rectifié ma question « comment se porte mon christianisme ?» Et puis j'ai encore rectifié ma question « comment je me porte, moi, dans le christianisme? L'Église est-elle usée, malade, en péril peut-être? La lèpre l'aurait-elle atteint? Cette maladie qui a un aspect repoussant et qui fait garder la distance à ceux qui se croient intouchables. Je sais que mes propos sont durs. J'ai eu peine à les écrire, mais ne suis-je le seul parmi nous à ne penser que ça, à constater que la puissance et la venue du Saint-Esprit de la Pentecôte n'est peut-être plus d'actualité ou un très loin souvenir? Oh oui, le monde extérieur nous prend encore pour des fous, des personnes hors de sens. Nous allons dimanche matin à l'église au lieu d'aller à la batte ou faire un jogging. Je serais étonné des gens qu'il y a sur la route, quand vous venez à l'église et vous dites, voilà, j'ai une fois constaté des gens en vélo, des gens à pied, des gens qui couraient, des gens qui vont marcher. Et nous, on va à l'église. Oui, on nous prend un peu pour des extraterrestres ivres, peut-être, mais est-ce encore pour la même raison qu'au premier siècle? Reconnaissons que nous ne sommes plus à la hauteur, que je ne suis plus à la hauteur. Reconnaissons que nous avons besoin d'un renouveau, que j'ai besoin d'un renouveau. Les 10 lépreux connaissaient leur état. Ils savaient très bien qu'ils ne s'en sortiraient pas. Cette maladie est incurable. Elle conduit à la mort. Qui allait s'approcher d'eux pour les toucher, les rendre un peu plus heureux, les visiter? Personne. Ils étaient à part. Personne n'approchait un lépreux. Pourtant, un homme de Galilée, qui n'avait ni beauté, ni éclat, qui n'avait rien pour plaire, passe par leur village. Mais ils savent qui il est. Vu qu'il interpelle, « Seigneur, Maître, aie pitié de nous !» Ils le connaissent. Ils connaissent Jésus. Mais avant, ils vont faire deux actions. Avant de crier cela, ils vont faire deux actions qui sont essentielles. Il nous est dit que les 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils viennent à la rencontre de Jésus et ils gardent une distance. Et puis seulement après, ils crient. Pour être entendu, il faut s'approcher, mais garder une certaine distance. S'approcher, garder une certaine distance? Je m'explique. Premièrement, s'approcher. Le psalmiste nous dit dans le psaume 73, 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » À de nombreuses reprises, Jésus va plutôt vers les gens, mais à d'autres reprises, ce sont les gens qui viennent à lui. Dans d'autres cas, c'est le besoin qui pousse les personnes à s'approcher de Jésus. La femme qui a une perte de sang va venir toucher le bord de son vêtement. Elle va s'approcher de lui. Le centenier enverra une délégation vers Jésus pour que son serviteur soit guéri. Il y a une démarche de volonté. Il y a quelque chose à faire. On vient par intérêt, peut-être. Mais pour rencontrer Jésus, il faut faire quelque chose. Il y a une démarche de foi. Il faut mettre Dieu dans le processus de la guérison. On rapporte qu'un certain Pierre Simon Laplace, bon, je ne l'ai pas connu, il a quand même vécu de 1749 à 1827, même pour les plus âgés, on le connaît pas. Il était doué d'une mémoire prodigieuse et d'une intelligence exceptionnelle. Il effectue, et je cite, avec Lavoisier en 1782 et 1784, des recherches sur la chaleur, l'électricité et les gaz. Il est admis à l'Académie des sciences en 1785 et il dirige ses efforts vers l'analyse des perturbations et de la stabilité du système solaire. Pas tout retenir, hein, mais vous voyez bien le niveau, hein. Il rédige de nombreuses publications scientifiques, participe à l'organisation de l'école polytechnique en 1794. Tout cela n'empêche pas d'entrer dans la politique et ardent républicain, il se rallie sans hésiter au gouvernement consulaire. Il sera pendant quelques semaines ministre de l'Intérieur. Il est nommé membre du Sénat, conservateur à sa création. De 1798, voilà ce qui nous intéresse, à 1825, paraissent les 5 volumes de sa mémoire mécanique céleste qui rapporte l'exposition du système du monde, système solaire et tout ça. 5 volumes. Génial, le mec. Et puis l'empereur Napoléon lui dira qu'il a lu, apparemment, lui dira, fait remarquer que nulle part il n'est mention de Dieu. Et la place de répondre, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Fin de citation. Dieu n'est pour lui qu'une hypothèse. Je n'ai pas eu besoin de Dieu. Il planait au-dessus de tout. Dieu n'est peut-être qu'une hypothèse. Et d'autre part, je lisais cette semaine une publication d'un exégèse de la Bible, renommé, qui en arrivait à la conclusion que les évangiles étaient constitués de récits historiques, de fables, de descriptions de faits inventés, et le pire, que la résurrection de Jésus n'a pas eu lieu. On a caché le corps, on l'a blessé. Si Dieu n'est qu'une hypothèse et Jésus une fable, quelle approche pouvons-nous avoir et que pouvons-nous proposer, nous, Église? Dans notre processus de guérison de la lèpre qui touche l'Église et le christianisme en général, si nous avons que des hypothèses ou des fables, on n'ira pas loin, on ne sera jamais crédible. Pourtant, or personne ne peut plaire à Dieu sans la foi, nous dit Hébreux. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est récompensé qu'il cherche. Pour s'approcher, il y a un minimum. Il faut la foi. Si c'est qu'une hypothèse, on ne va pas s'approcher d'un si. S'il existe, peut-être que... Mais on peut avoir la foi pour pas mal de choses. Vous avez quand même la foi en votre médecin qui peut guérir certaines maladies. Vous avez la foi en votre boulanger qui se lave les mains avant de faire votre pain. Vous avez la foi en vos freins de votre voiture. Quelquefois qu'il faut s'arrêter. Mais la foi avec un grand F doit être en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils, uniquement. Nos deux lépreux avaient la foi. Ils avaient la foi en Jésus, puisque sur la parole de Jésus, ils vont se montrer directement sacrificateurs. À l'époque, il fallait être pur pour que les sacrificateurs déclarent la maladie guérie et lèvent l'isolement. Dans le cas de notre candidat, personne n'est encore guéri quand ils vont se montrer au sacrificateur. Le texte nous dit que c'est en chemin qu'ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Jusque-là, ils sont partis par la foi. La foi fait approcher, mais fait également mettre en route. Ok, c'est bon, je fais rien, je suis là. On peut se souvenir que les disciples, souvenez-vous de ce récit raconté par les évangiles de Luc, les disciples ont travaillé toute la nuit, ils ont essayé de pêcher toute la nuit et puis ils n'ont rien pris. Et Jésus leur dit, allez, jetez vos filets. Seigneur, allez, tu, on a travaillé toute la nuit, sérieusement. Et si on relit le texte de Luc 5:5, la version seconde nous dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et le texte original pour jeter le filet est davantage laisser descendre, laisser couler. Et là, je rejoins John Nelson Darby, et il dit, et Simon répondant, lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. Je lâcherai le filet. Il y a un super enseignement à acquérir parce que dans nos réactions sur le lâcher prise dans cette image. Quand tout va mal, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Seigneur, tire ton plan, hein. Prends-le le problème. J'en ai marre, j'en peux plus. Comme le ras-le-bol. Allez, c'est bon. Hein. Et on jette. Quelquefois, on va rechercher, mais on jette. Et si notre attitude devait devenir différente, Seigneur, je lève les bras et je te laisse agir. Vous avez déjà vu des images où ils vont à la pêche, il y a des énormes filets comme ça et qui sortent du bateau comme ça. On n'a pas intérêt à mettre tes doigts, hein. Levez les bras, laissez couler, laissez aller. Pas facile, je l'avoue, et je le vis actuellement. Lâchez prise. Comment faire? M'approcher de mon Dieu, c'est cela. Voilà mon seul bien. Et puis, ils font une deuxième action, nos chers lépreux. Ils se tiennent à distance. Je viens d'expliquer qu'il faut s'approcher, et puis après, il faut garder une certaine distance. Eux, ils gardent une distance, pourquoi? Ils savent qu'ils sont lépreux. Ils connaissent les dégâts de cette maladie et la dangerosité de cette contagion. Hein? On sait ce que c'est de la garder la distance. Hein? Est-ce qu'ils ont peur de contaminer Jésus? Oh, peut-être. Est-ce qu'ils ont la foi suffisante pour que lui ne sera pas contaminé? Et pendant que j'écrivais, il m'est venu un autre récit. Le buisson ardent. Souvenons-nous, Moïse garde les moutons de son beau-père et tout à coup, un buisson prend feu, mais ne se consume pas. Il veut se détourner, mais Dieu l'appelle, le rappelle. Exode 3, versets 4 et 5. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. N'approche pas. On fait quoi? On s'approche ou on s'approche pas? Dieu est saint. Dieu est saint. Et devant cette sainteté, il y a lieu de marquer le respect. Si Moïse doit marquer ce respect en enlevant ses chaussures, que devons-nous faire, nous, actuellement, au XXIe siècle? Dieu est notre Père et Jésus notre ami. C'est pas un pote qu'on tape sur l'épaule, hein. C'est pas un copain avec qui on boit un verre en terrasse. Jésus, c'est pas mon copain. C'est un véritable ami. C'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs. Alors comment faire? Alors on retire ses chaussures à l'entrée de l'église. On passerait pour une autre religion. Mais remarquons que dans le passage du buisson ardent, c'est la terre où Jésus se trouve qui est sainte. C'est la présence de Dieu qui est sainte. C'est pas partout. Là-bas, hein. Attention. Hein. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Et c'est par Jésus que nous devons être saints, par la terre. Dans 1 Pierre 1,15, voilà ce qu'il nous est dit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. J'avais jamais remarqué les trois derniers mots. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est au travers de l'œuvre de Jésus à la croix que je peux me présenter et m'approcher de Dieu. C'est à la croix et avec la résurrection de Jésus qui a réduit la distance de la lèpre, qui a réduit la distance du péché, que le péché a creusé cette distance. C'est par la mort de Jésus que le voile est tombé et s'est déchiré. C'est par la mort de Jésus que la séparation entre Dieu et les hommes est tombée. Nous pouvons avoir un accès libre dans le lieu très saint, un accès direct à Dieu. Je sais, on sera jamais saint à 100%. Sur cette terre, c'est impossible. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher avec confiance. Et c'est Paul qui dira aux Éphésiens, 3:10, « Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Pas moi qui le dis, hein. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et dans notre récit des 10 lépreux, ils sont tous guéris, sans exception. La distance n'est plus. Ils pourraient toucher Jésus comme ils voudraient, le prendre dans leurs bras, mais rien n'y fait. Ah. Un seul reviendra glorifier Dieu de sa délivrance. Jésus donnera le détail de cet étranger parce que il sort du lot pour rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Jésus. Nous pourrions nous poser la même question que lui et les 9 autres. Les 9 autres, qui sont-ils? Par déduction, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des gens du pays, de la même nationalité que Jésus. Quelle ingratitude! Pourtant, ils avaient la foi comme lui. Ils étaient du même peuple que lui. Ils parlaient la même langue que lui. Vous avez déjà remarqué, souvent les plus ingrats sont ceux les plus proches. Et comme j'ai débuté ce partage par la constatation de l'état du christianisme européen et la lèpre qui touche l'Église, nous sommes là. attendre. Nous sommes de son peuple. Nous avons été choisis. Nous avons été sauvés. Nous avons été lavés. Nous avons été rendus saints. Christ a enlevé le manteau de péché qui couvrait la face de Dieu. Et j'aimerais encore laisser parler la parole de Dieu. Dans Éphésiens 2, 18, voilà ce qu'il nous est dit. Car par lui, il parle de nous. Car par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il parle de l'Église, hein? Il parle de nous. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, pour conclure, si notre christianisme est usé et sans le moisi, si nous avons laissé s'installer la lèpre et son odeur de mort, revenons à ce Jésus rempli de compassion, prêt à tout pour nous guérir. N'oublions pas, il ne fait pas les choses à moitié. S'il a fait les choses à moitié, il serait resté sur la croix, ou il serait peut-être descendu, ou il aurait peut-être appelé son père, dire « je m'en vais ». Non, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Il ne fait pas les choses à moitié. Il peut nous racheter de la souffrance. Et je terminerai juste par une dernière illustration tirée de nouveau de la Bible. Dans le prophète Zacharie, chapitre 3, et les 5 premiers versets, voilà ce qu'il nous est dit. Zacharie, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » D'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était là. Josué était sacrificateur. Il était quelqu'un de haut placé. Il n'était pas un étranger. Mais il avait des vêtements usés. Un peu comme notre illustration de l'Église du début de cette méditation. Un peu usé. Satan, l'accusateur, voulait détruire. Mais l'ange de l'Éternel était là. Jésus, en personne, était là. Les vieux vêtements furent enlevés par l'ordre de l'Éternel Yahvé et il reçut de nouveaux vêtements de fête. De fête. Telle une Pentecôte. Telle une Pentecôte. La fête. N'avons-nous pas envie de revivre cette Pentecôte? Une Pentecôte est d'être peut-être pris aussi pour des personnes ivres, ivres de joie, ivres d'avoir retrouvé ces vêtements de joie, de paix. Mais ivres, ivres de la grâce de Dieu, de la grâce immense de Dieu et de son amour inconditionnel. Revenons à lui et entendons-nous nous dire, lève-toi, lève-toi. Va, ta foi t'a sauvé. Ou peut-être, relève-toi, reconsacre-toi, ta foi t'a sauvé.